marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Sorbonne, plage.
C'est probablement l'affaire Dreyfus qui a regroupé toute une série d'universitaires Dreyfusards.
Et donc ça a fait une communauté où il y avait un nombre de professeurs à la Sorbonne incroyable. Donc les gens du pays ont appelé ça Sorbonne plage.
Le premier reportage photographique qui fut consacré à l'endroit en 1930 ne le localisait pas très précisément. On dira donc simplement qu'on n'est pas loin de l'embarcadère qui mène à l'île Bréa. C'est peu après 1930 que se situe la plus haute époque de Sorbonne-Plage. Les professeurs qui s'y étaient agrégés depuis l'époque Dreyfus y ont fait souche. Deux fidèles, Irène Joliot-Curie puis Jean Perrin, sont tour à tour chargés de la recherche scientifique dans le gouvernement du Front Populaire, dont le ministre de l'Instruction publique, Jean Zay, vient passer quelques jours de vacances sur les rochers. Sorbonne-Plage, c'est la proue de cet endroit que je n'ai pas plus précisément localisé. Aujourd'hui, le public en connaît surtout la poupe. C'est la maison des Bettencourt, à l'Arc-Ouest. Elle a reçu la visite de Georges Pompidou au lendemain de son élection, en 1969. Dès sa construction, en 1926, par le père de Liliane, Eugène Schuller, le fondateur de L'Oréal, elle s'est ornée d'une colonnade, ce qui n'avait pas manqué de surprendre de l'autre côté, chez les chers professeurs. On pourrait écrire un dialogue imaginaire entre l'essaim des savants et le nid des Bettencourt. Et on serait parfois surpris, parce que, à la réflexion, L'Oréal n'a mis sur le marché que des produits assez inoffensifs. Tandis que des travaux sur la fission nucléaire de nos physiciens, on sait quelles applications militaires on a pu tirer. Sorbonne-Plage, c'est l'histoire de vacances heureuses d'une communauté humaniste et aussi celle de ses surprises malheureuses.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Ce que raconte fort bien Édouard Launay, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Stock un livre « Sorbonne-Plage ». On ne va pas dire tout de suite où se situait exactement Sorbonne-Plage. Je ne sais pas si on le fera. C'est d'ailleurs le second livre de cette nature que vous publiez chez Stock. Vous aviez donné auparavant Le Seigneur des Îles, où vous racontez comment vous abordez par la mer les îles anglo-normandes. C'est par la mer que vous abordez Sorbonne-Plage.
Oui, donc j'ai un amour totalement irrationnel pour la Manche, pour les côtes de la Manche, donc les îles anglo-normandes, Chausey. Et cet amour inclut la Bretagne-Nord, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette presqu'île de l'Arc-Ouest, Sorbonne-Plage, en naviguant. Et ce qu'on voit essentiellement, c'est la maison de Liliane Bettencourt, qui n'est pas très belle, mais qui a une vue absolument incroyable, sur la baie de Paimpol et l'île d'Aubréa.
Si on s'approche un peu, on voit quand même une stèle, dont vous dites que le style est discutable, consacré à Irène et Frédéric Joliot-Curie. Il y a eu 4 prix Nobel, ouais. Marie Curie, Jean Perrin, Irène et Frédéric Joliot-Curie, qui ont résidé longuement à Sorbonne-Plage. Alors ça intéresse le scientifique que vous êtes, parce que d'origine, vous avez été ingénieur.
Dans ma première vie, j'étais ingénieur. J'ai un goût très fort pour les sciences. J'ai même eu le culte du progrès à un moment, avant qu'il s'étiole un petit peu.
C'est né au Palais de la Découverte quand vous étiez enfant?
Oui, absolument. Ce fameux pavillon d'électrostatique existe toujours. Je crois que tous les gamins, un jour ou l'autre, avec leur école, y vont. Et c'est extrêmement spectaculaire, puisqu'on a les cheveux qui se dressent sur la tête. Voilà, c'est une expérience forte. C'est comme ça qu'on se découvre une vocation de... pas de scientifique, mais d'ingénieur en tout cas.
Et qui est à l'origine du Palais de la Découverte?
Eh bien, c'est l'Arc-Ouest. C'est Jean Perrin plus précisément, mais beaucoup d'autres y ont participé. C'était un peu l'apogée des idées de l'Arc-Ouest, c'est-à-dire une science triomphante, une science à la portée de tous, et surtout une science au service du progrès social.
On va commencer par la première génération. On retrouve dans le milieu Dreyfusard des idées comme celles que vous venez d'esquisser. Ce sont des Dreyfusard qui s'installent les premiers, bien avant Eugène Schiller. Il s'appelle Louis Lapic. Nous sommes au tout début du XXe siècle. Il s'appelle Charles Seignobos. Alors Charles Seignobos, pour un historien, les cheveux se dressent sur la tête parce que... On trouve que dans l'école historique française, bon, ça a été un grand professeur à la Sorbonne, mais enfin, c'était l'école méthodique, ça resserrait un peu l'histoire, ça l'a coupé de la sociologie, ça l'a coupé de la philosophie. Et il apparaît comme un personnage tout à fait entraînant dans votre livre.
Oui, parce que Samuel Beuys, d'abord, c'est le capitaine. Il a un bateau sur lequel il emmène tout le monde, donc on l'appelle capitaine, quand bien même il laisse la barre à un marin. Par ailleurs, je crois qu'il est porteur de toute cette tradition de l'école normale supérieure qui fonde l'Arquest, parce que tous ses professeurs de la Sorbonne sont passés avant à normale. Et il est un peu l'animateur des rites. On chante, on danse, on récite des poèmes.
Le bateau s'appelle ?
Le bateau de Seigneur Beau s'appelle l'Églantine.
Et l'Églantine, c'est ?
Ben, c'est le symbole de... Enfin, de... C'était le symbole avant le du premier, mais avant de devenir
voilà.
Le
Mickey. Et c'est l'emblème de la ligne des droits de l'homme. Et c'est pas par hasard que le bateau s'appelle ainsi.
Absolument.
C'est un grand bateau.
Vu par un navigateur. Un beau bateau, en tout cas.
Il y a le capitaine, et puis il y a la petite mère. Il y a beaucoup de femmes à l'Arquest. La petite mère, c'est la femme de Seigneur Beauce.
C'est la femme de Seigneur Beauce qui animait à la fin du 19e siècle un salon très Dreyfusard. Il y a d'autres femmes, évidemment Marie Curie, il y a sa fille Irène, son autre fille Ève. C'était un lieu assez féministe, l'Arquest. Ça a été aussi un des lieux du... Irène deviendra la première femme ministre, enfin secrétaire d'État.
En 1936. Mais si vous le voulez bien, on peut s'arrêter. On est à la première génération, en 1912, au moment où arrive... Marie Curie. Alors les biopics qui sont consacrés à Marie Curie racontent son amour pour Pierre Curie. Mais tout de même, après la mort de Pierre, alors qu'elle va elle-même recevoir un second prix Nobel, sa famille la voit un jour arriver, resplendissante comme ressuscitée. Il y a une histoire d'amour qui va d'ailleurs avoir des conséquences politiques et déclencher toute une histoire que Marie Curie va vouloir apaiser en allant à l'Arquest.
Oh, elle ne veut pas l'apaiser, elle va se réfugier à l'Arquest parce qu'elle est cernée par toute une opinion publique qui lui en veut, parce qu'elle a détruit une famille, donc elle a eu cette aventure avec Langevin, autre grand physicien, père de 4 enfants, et tout d'un coup, Marie Curie...
Est mariée,
pas rien. devient... Oui, c'est une nouvelle affaire Dreyfus qui démarre
parce
pratiquement.
Parce qu'elle est étrangère, la juive polonaise.
Absolument.
Adultère.
Ouais. Et donc, comme elle a beaucoup d'amis à l'Arquest, ces gens-là vont la mettre à l'abri à l'Arquest. Jean Perrin lui dit, après avoir découvert la radioactivité, venez donc découvrir l'Arquest. Ouais.
Camille Marbeau est une femme hôtesse aussi à l'Arquest. Marbeau, Marguerite, Borel, son mari est sous-directeur de l'ENS et son mari...
Émile Borel est un mathématicien extrêmement brillant.
L'ENS, l'école normale supérieure, ouais. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ouais. De l'Arquest. Camille Marbeau, c'est le premier témoignage qu'on va entendre, suivi de quelqu'un de la troisième génération, Denis Huysmans. Et puis le dernier, retenez bien tout le nom, c'est Pierre Joliot.
Il existait une sorte de curieux phalanstère où les esprits les plus fins se rencontraient. Dans une ambiance assez particulière, puisque nous faisions du bateau du matin au soir, que nous chantions des chansons de marins et que nous n'avions en principe aucune conversation d'ordre élevé, mais malgré tout, il se dégageait de ce milieu une atmosphère de grande finesse, intelligence et un climat psychologique extraordinaire.
Il y avait une quantité considérable de savants. C'était copains entre eux, ils se cooptaient. Hein, ils disaient, ah non, un tel, non, il est chiant, faut pas le prendre. Ils demandaient qu'à des gens qu'ils aimaient bien. Alors, ils avaient toutes de grandes maisons, Seigneur Beauce ou Jean Perrin, ou Guy Lapique avait d'immenses maisons avec plein de chambres, donc ils invitaient des gens qui leur plaisaient. Et c'était très charmant, très sympathique comme atmosphère, comme ambiance, mais c'était en même temps très exclusif.
Ce groupe entièrement composé, on peut dire, de personnalités de gauche très préoccupées de l'ouverture sociale, avait néanmoins formé un ensemble très fermé sur le plan social. C'est tout à fait, pour moi, la caractéristique négative et positive d'une tribu. Une tribu est un ensemble fermé sur lui-même, très isolé du monde.
Mais des gens de gauche devaient chercher le contact avec les habitants de l'Arquest. Peut-être pas au moment des festivités de Sainte-Anne ou aux réunions des salles paroissiales, mais je sais pas, au bistrot.
Oui, alors, pour les dédouaner un peu de cet isolement, il faut dire que c'était pour un refuge, l'Arquest. C'était un endroit, une sorte de suspension. Par ailleurs, ils ont quand même facilité l'implantation d'une colonie ouvrière, d'ouvriers du Faubourg Saint-Antoine, tout près. Mais il est vrai qu'il ne les fréquentait pas beaucoup. Il ne fréquentait pas beaucoup le hameau tout proche, le hameau de Launay mal nommé.
Ça y est, on commence à préciser la localisation.
Ouais. Et parce que c'était l'entre-soi universitaire, parce que c'était des professeurs de la Sorbonne qui se plaisaient à passer leur temps ensemble, y compris pendant les vacances.
Et à ne pas parler souvent trop sérieusement. Il y en avait un qui parlait plus sérieusement que les autres, qui aimait les discussions de fond, et tout autant discuter avec les pêcheurs ou aller dans les bistrots, c'est le jeune Frédéric Joliot-Curie qui arrive en 1926 avec Irène. Alors le témoignage souvent cité par vous aussi, Edouard Lenay, du père Rousseau, vieux pêcheur devant l'Éternel.
Il aimait beaucoup faire de la voile. Il avait un bateau qui s'appelait Galarabdi, environ 6 mètres, 6,50 mètres, qui était très très voilé, très très bon marcheur. Il gagnait presque à chaque coup le premier prix au regret. Il ne prenait jamais d'argent. Hein. Il payait à boire à ses concurrents. Mais il se contentait d'une médaille ou d'une coupe.
Et il payait à boire à ses concurrents?
Ah oui, oui, il payait à boire. Ah. Il savait qu'en régatant, il disait aux copains, « Tiens, je t'aurai la prochaine bordée, je vais virer de bord. Tu ne boiras pas aujourd'hui. » Il fait des trucs comme ça.
Et qui c'étaient les concurrents?
Ben, les autres marins pêcheurs de Port-Zéven, de l'Ogivy, de la mer, de Lonnais.
Il était copain finalement avec tous les pêcheurs des environs?
Oh, il les connaissait comme s'il était des frères. Il était très populaire, il aimait tout le monde, surtout des marins.
Si vous n'avez pas trouvé la localisation maintenant de l'Arquest, il était si sociable, Frédéric Joliot-Curie, qu'il montait sur le bateau de Schuller.
Oui, alors Eugène Schuller, ben pourquoi il est à l'Arquest? Parce que son professeur de chimie, Victor Auger, a une maison là-bas. Un jour, il vient le voir, il trouve l'endroit formidable, il se fait construire une maison. Et il achète un bateau, le Delvesque, un très beau bateau, qui séduit évidemment Frédéric Joliot.
Parce que c'est plus long et plus puissant, oui, et comme canotte, comme on dit en Bretagne, que
et Frédéric,
les glantines.
Oui, et il navigue beaucoup, Frédéric. Donc, en plus, Schuller va jusqu'en Angleterre. Et c'est plus marrant que les petites navigations en baie de Paimpol avec les glantines.
Schuller, je ne sais pas s'il fait beaucoup de politique en 1936, enfin il commence, et c'est pas du tout le même bord que le monde de Paris, des Parisiens de Sorbonne-Plage, qui, eux, fêtent 1936, alors d'une manière particulière. Il paraît qu'il y a une sorte de manifestation des enfants qui brandissent des pancartes au moment de la fête du capitaine. Vive les soviets!
Chaque année, l'anniversaire de Seigneur Beauce, alias le capitaine, est l'occasion d'une grande fête en septembre. Où tout le monde toute la tribu, le phalanstère se retrouve, enfin en d'autres occasions aussi, mais là c'est vraiment le grand moment de l'été. Et donc en 36, effectivement, cette fête un peu potache se transforme en fausse manifestation du Front populaire. Et il en reste un film d'ailleurs qui est très émouvant.
Parce qu'il se filme, c'est documenté et c'est déposé maintenant
Au Forum des Images.
Au Forum des Images à Paris. Ça, c'est la colonie humaniste optimiste. Il est temps qu'on vienne à l'autre versant, au versant tragique. Ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs, c'est que cette région de la pointe de la Bretagne, que connaissait bien Ronan, avait aussi été très bien décrite par Anatole Lebras, grand collecteur de chansons, et que les gens de Sorbonne-Plage seraient bien allés à Port-Blanc chez Anatole Lebras s'il n'y avait eu un naufrage tragique.
Oui.
Alors, c'est le début de la tragédie, c'est avant même le début de Sorbonne-Plage.
Pourquoi il y a une telle concentration de savants, de ministres sur la presqu'île de l'Arquest? Parce que, à l'origine de tout ça, il y a un drame. Et ce drame, c'est que les créateurs de cette colonie, avant, se réunissaient à Port-Blanc, plutôt, chez Anatole Lebras.
Une trentaine de kilomètres.
Oui, qui était un ami de ce groupe-là. Et puis, vers 1900, il y a un drame affreux. Un soir, un canot avec l'essentiel de la famille de Lebras fait naufrage en baie de Tréguier, dans l'estuaire. Et à ce moment-là, évidemment, c'est affreux. Les gens ne peuvent plus retourner à Port-Blanc.
On ne peut plus regarder vers l'ouest.
Non. Et donc, en se baladant un peu autour, il repère l'Arquest. Et peu à peu, tous les gens qui fréquentaient la petite tribu de Lebras vont migrer vers l'Arquest.
1900, la tragédie à l'origine de Sorbonne-Plage, et puis va venir celle de 1940. On va entendre une chanson collectée dans la tradition de son maître François-Marie Luzel par Anatole Lebras. Une chanson qui remonte à la nuit des temps, peut-être au XIe siècle. Il est question d'une guerre, il est déjà question de l'Angleterre. Un roi a levé une armée, le comte de Bretagne a rejoint cette armée, et comment les parents vont-ils retrouver le jeune fils Sylvestre qui est parti dans cette armée? Oh toi, mon petit oiseau, tu as deux ailes, chante Alan Stivell, tu vas voler par-delà la grande mer, voudrais-tu voler pour moi jusqu'à la tête de l'armée pour savoir si Sylvestre est encore en vie?
Athos en ménébré. Je serai habitagno wank au sévelen armé d'aglask sous d'Ardagno wank peplech drea contré même sur ma psylvestri Rwerin va mam silvestrig na meus mab ne metan Me ve o dio chabiten an achan de gantan E dal ket ar ma cha diwez a deo breman De sou dar dal en ar Ablige d'une belle temps A te la boussique Bion barbouez d'Azivoise Ken A niche fedreis Tar vrouillou de gaud Va ma biguel A chour en fégan Tant que l'air ar Rizel, mardi oyach, evu edonda di egavel. Itri shaperik sante flan, atos en menebre. Ze se habiten yo wank O severen arme Da glask Sud arder yo wank Peplech drea contre Meme ser map silvestri
Sorbonne Plage, l'histoire de cette colonie humaniste de scientifiques et d'intellectuels parisiens que raconte Édouard Launay dans un livre chez Stock, tourne au tragique, on le sent, des 39-40. Irène et Frédéric Joliot-Curie quittent dès août 39 leur résidence de vacances. Où en sont les recherches de l'équipe Joliot d'ailleurs à Alors, cette époque?
Durant le premier semestre 39, Joliot est un de ceux qui est le plus avancé vers la fission nucléaire. Si la guerre n'était pas intervenue, on peut se demander même si la première réaction nucléaire en chaîne n'aurait pas eu lieu en France. Je pense que Frédéric Joliot en était convaincu lui-même.
Irène, son épouse, va se réfugier avec les enfants en Suisse pendant l'occupation. Joliot va rester au Collège de France avec une activité très réduite et surveillée par les Allemands.
Oui, il a un officier allemand sur le dos et donc évidemment il met ses recherches en veilleuse.
1945, l'été 45, donc après la libération, Irène et Joliot-Curie retrouvent l'Arc-Ouest dans quel état?
Comment dire, certaines maisons ont été saccagées, pas la leur, qui était encore en bon état. Ils retrouvent évidemment l'artillerie allemande. Mais je crois que ce qui l'a emporté chez eux, c'est la joie de revoir l'Arc-Ouest et de revoir la mer.
Le capitaine Seignobos était mort cependant. Effectivement. Sa maison, dites-vous, démontée.
Oui, alors Seignobos avait eu des propos qui n'avaient pas été appréciés par l'occupant. Et un officier allemand s'était chargé, dit-on, de la faire démonter pierre par pierre et en renvoyant la clé à son propriétaire.
Qui est mort en 1942, comme est mort, mais là aux États-Unis, Jean Perrin, le prix Nobel 1926, qui habitait à l'Arc-Ouest et s'était fait construire une très belle villa sur la presqu'île. Alors la joie de retrouver l'Arc-Ouest, sauf que le 6 août 1945, par la radio ou par l'Ouest France, je ne sais, Irène et Frédéric Joliot-Curie apprennent la nouvelle du bombardement d'Hiroshima. Et au bombardement d'Hiroshima préside Il est ici dans son cockpit de bombardier, le commandant Tibbets, qui va devenir un héros de votre livre.
All right, everyone, listen up. You're getting it late, but you're getting it straight. This airplane is carrying the world's first atomic bomb. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Le film Enola Gay. On reviendra sur le cas du commandant Tibbets qui, comme vous, Edouard Launay, aime beaucoup la Manche. Oui. Je ne veux pas vous mettre en accusation ni en difficulté. Mais continuons sur ce qu'ont pu être les réactions des Joliot-Curie.
La réaction de Frédéric est un peu ambiguë, parce que au lendemain, quand cette bombe explose, il s'aperçoit qu'il s'est fait doubler par les Américains. Donc c'est une déception pour le chercheur. Pour l'homme engagé, c'est un ébranlement, puisque l'énergie atomique entre dans l'histoire par un holocauste. Et donc il est très partagé, mais ses premiers écrits sont quand même assez surprenants dans la mesure où il dit « N'oublions pas que nous avons, nous Français, apporté une contribution importante à cette victoire de l'homme sur la nature. » Une victoire de l'homme sur la nature pour Hiroshima, c'était des termes assez mal choisis quand même.
Et que nous sommes, l'équipe des atomistes français a coutume de dire ça, relativement indirectement, c'était leur formule, liée à la recherche et à l'invention américaine. Le général de Gaulle, à Ottawa, avait été mis au courant de ce qui se préparait aux États-Unis, et, comme les autres responsables français après lui, au lendemain de la libération, il pense que la France ne peut pas ne pas participer à la recherche dans ce domaine, même si elle a été distancée.
Oui. Il y a un fait qui s'est imposé et la réaction des politiques et des scientifiques est évidemment pas la même. Donc il va falloir mettre au point la bombe française. Et deux grands scientifiques de l'Arquest vont y participer, Francis Perrin, le fils de Jean, et un second dont le nom m'échappe dans l'instant, mais la bombe atomique est aussi, quelque part, indirectement une création de l'Arquest.
Et Joliot, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il va accepter de hautes responsabilités scientifiques.
Alors, Joliot, après la guerre, il s'aperçoit que la science française est en ruine, donc il prend la direction du CNRS, ensuite il crée le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, mais il garde ses engagements d'une part humaniste, pacifiste et communiste, et signe l'appel de Stockholm, et donc est viré du CEA, et va continuer à militer pour les applications civiles de l'atome.
C'est-à-dire que jusqu'au bout, il va présider, il va mourir en 1958, le Conseil mondial de la paix, qui constitue le lieu privilégié des revendications pacifistes. Ambivalence, double langage, hésitation, contradiction ?
Non, je crois pas. À part ce petit moment de vacillement après Hiroshima, après, il était totalement cohérent avec lui-même. C'est-à-dire, une foi dans la science très forte, une foi dans son métier de chercheur, et la conviction que l'atome, que sa famille, que sa belle-mère, que sa femme, que lui-même a contribué à ouvrir pour en sortir l'énergie, était quelque chose qui aurait des applications formidables et qui irait aussi dans le sens d'une justice sociale.
Mais ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est que la bombe d'Hiroshima, on n'est pas encore à la bombe à hydrogène, on est à un stade inférieur, même si c'est cataclysmique. Elle a été évidemment reçue de façon positive. Les Américains ont fait savoir que c'était pour eux le moyen d'éviter la mort de centaines de milliers d'hommes qui auraient dû débarquer au Japon. Et vous citez Albert Camus dans un papier de combat qu'il animait à l'époque. Albert Camus est révolté par la manière dont les autres éditorialistes réagissent avec des dissertations élégantes sur ce qu'on appellerait les armes intelligentes aujourd'hui.
Et c'est la seule voix discordante qui s'élève. Tous les journaux de l'humanité au monde célèbrent au lendemain d'Hiroshima une grande découverte scientifique, ce sont les termes. L'humanité rappelle le rôle important qu'a eu le camarade Fred Joliot, ce sont les termes même de l'humanité. Et seul Camus voit ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ben, c'est la fin des Lumières. C'est la fin de cette philosophie qui veut que le progrès soit toujours synonyme de mieux. Or, tout d'un coup, le progrès devient synonyme de mort. Il dit, je crois, je le cite, que le monde civilisé, le monde mécanique a atteint son dernier degré de sauvagerie.
Sur la civilisation mécanique vient de parvenir à ce dernier degré de sauvagerie. Et on peut écouter en écho ce que continue à maintenir jusqu'au bout de son existence Frédéric Joliot-Curie.
Toutes les découvertes ont ce double aspect bienfaisant et destructeur, et il faut toujours aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il faut, on n'a pas le droit d'arrêter les recherches et la connaissance. Il faut toujours une très grande réserve de connaissances pour permettre à l'homme d'abord de progresser, mais de lutter contre les fléaux qui peuvent surgir. Et je me réfère toujours à la phrase de Pierre Curie après la découverte du radium. En réalité, les découvertes apportent le passé et le monde toujours plus de bien que de mal. Mais bien entendu, les hommes doivent être vigilants pour que le mal ne l'emporte pas.
Alors jusqu'où les hommes doivent-ils être vigilants? Parce qu'on a bien entendu que Frédéric Joliot-Curie ne voulait pas qu'on pose de bornes.
Oui, alors...
À la liberté des chercheurs.
Il y a une chose que Frédéric Joliot ne rappelle pas là, c'est que aussi bien lui, dans son discours de réception du Nobel, que Pierre Curie, son beau-père, avait pris soin de dire « on vient de découvrir quelque chose, mais ça pourrait être dangereux ». Il mettait en garde. On ne sait pas ce qui va se passer avec ça. On ne sait pas ce qui va se passer derrière le radium. On ne sait pas ce qui va se passer derrière la radioactivité artificielle. Ils étaient conscients eux-mêmes que ce qu'ils étaient en train, cette boîte de Pandore qu'ils ouvraient, il pourrait en surgir des choses atroces. Et peut-être qu'ils ont tenu un discours par la suite trop positif, qui oublieux de ces mises en garde qu'ils avaient faites eux-mêmes.
Oui, mais ils étaient radicalement optimistes à leur quest. Ils avaient plus confiance dans le sens général du développement de la vie, qu'ils n'étaient inquiets des conséquences négatives de l'application de certaines découvertes. Ils croyaient à une rationalisation progressive de l'humanité.
Ce en quoi ils se trompaient assez largement.
Ils croyaient peut-être que la rationalité pourrait créer des êtres supérieurs à ce qu'était l'homme aujourd'hui.
Je crois surtout qu'ils étaient héritiers d'une sorte de scientisme venu du 19e siècle. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours cette lignée, sur cette flèche d'un progrès continu, synonyme de progrès social. Or, le 20e siècle s'est chargé de les démentir assez vite et assez rudement.
Retour du tragique à la fin de l'histoire de Sorbonne Plage, votre livre chez Stock, Édouard Launay, comme le tragique avait présidé en 1900 à ses débuts peu connus. Merci à vous, à Maïna Sikarkra qui a préparé cette émission, à Antoine Fortin qui était à la technique, à Jacques Sigal qui en était le réalisateur.